Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 141, ici Richard Delhomme. Il y a un an environ, je faisais un premier épisode avec Benoît Bigot et il exposait ses plans pour 2021 avec la modestie et la retenue qui le caractérise et fait son charme. L'épisode s'était conclu par « bah maintenant c'est bien, mais il faut le faire ». Eh bien vous savez quoi ? Il l'a fait ce coup. Et il l'a fait avec la manière. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Benoît, il ne roule qu'en pignon fixe et sans frein. Et plutôt que rouloter dans les centres-villes ou faire des photos sur Instagram, Benoît roule vraiment, mais genre vraiment vraiment. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau Benoît pour un récap de son année 2021 et attendez-vous à du violent. En 2021, il a fait l'étape des Assassins dans les Pyrénées, la vidéo est dans la description, le Gravelman Terre Noire dans les Alpes de Haute-Provence, les 7 majeurs et le Bikingman Portugal. Tout ça, je rappelle, en pignon fixe. Âme sensible, s'abstenir et sans plus attendre, donc, Benoît Bigot. Voilà. Bah effectivement, oui, on arrive à savoir parce que, quand même, ça faisait un petit moment. Et je constate avec horreur, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ?
J'ai rien fait, je les ai attachés.
Ah, tu m'as fait peur, Benoît Bigot avec les cheveux courts, on dirait, avec la moustache et les tatouages, on dirait un para. Alors, j'ai rien contre les paras, mais quand même.
Non, c'est pas le cas, pas encore.
Non, mais par contre, Benoît Bigot au coin du feu, moi, je trouve ça magnifique.
Un peu de confort quand même, ça fait du bien de temps en temps.
Ouais. Bon, je vois que tu as ton vélo quand même pas loin derrière toi, la pub pour Rafa, très bien.
Jour 1, ouais, t'as vu.
Ouais, j'espère qu'il te paye grassement quand même pour cette publicité gratuite.
Je dis ça, je dis rien.
Ouais, tu l'as acheté donc.
Non plus.
Bon, ils te l'ont donné, très bien. Que la ouais. Veste ou autre chose ?
Hein ?
Que la veste ou plein de trucs ?
Non, mais ça, on verra plus tard.
D'accord, bon alors. Mon petit Benoît, nous sommes réunis ce soir, mes très chers frères, mes très chères sœurs, pour parler de ton année 2021 qui fut mouvementée. Et qui t'a vu passer de simple triathlète à amateur de pignon fixe à dégénérer de l'ultra sur un pignon fixe. Jusque-là, est-ce que c'est ça ?
Ouais, franchement, t'as bien révisé. Franchement, c'est pas mal.
Bah, je te connais quand même, hein. Je suis un petit peu tes périples. Et je peux même annoncer, avec une certaine dose de précision, qu'à ce stade-là, vers mai-juin, tu verras le soleil de Athènes avec deux putains de chevelus.
C'est ça.
Un Vosgien et un Parisien.
Il n'y a pas de Parisien.
Ah, je sais pas, c'est pas ce qu'il m'a dit la semaine dernière.
Ouais, il y aura pas de Parisien.
Ah, il y a un changement de programme.
Un changement de programme, mais c'est pas grave.
Mais bon. c'était quand même entre guillemets, il m'avait dit Steven, c'est pas sûr du tout, il a des trucs.
Ouais,
donc,
non.
Donc à voir, mais c'est bien dommage parce que ça aurait été vraiment très très drôle de vous voir tous les trois aller jusqu'à Athènes, de Rochesson à Athènes, ça aurait été très très drôle.
On fera ça une prochaine fois, c'est pas grave. Mais on a trouvé un remplaçant qui habite du côté de Mossane. Donc,
bon, c'est où ça ? C'est en France ?
Mossane, je crois que tu as fait un arrêt lors de Gallia.
Mais alors dis-moi, parce que moi je me souviens plus, hein, franchement.
Au Beau de Provence.
Michel ?
Le Mich.
Putain, j'ai pensé à lui il y a deux jours parce que j'ai vu le même spé que lui en vente sur le Bon Coin. Mais peut-être bien une taille trop chère et un trop grande et un poil trop cher, mais j'ai vu le même.
Bon, ouais, non, mais c'est pas le sien.
D'accord. Bon, bah, ça tombe bien, mais n'empêche que, ouais, retrouver un spé comme ça par les temps qui courent, c'est pas évident.
C'est sûr.
Il n'y en a pas beaucoup. Donc, bon, alors, si en une phrase, tu devais résumer ton année 2021, qu'est-ce que tu dirais ?
Une phrase, c'est chaud. Belle année d'apprentissage sur l'ultra,
Ouais.
sur le vrai ultra. Jusqu'à maintenant, j'étais sur du 350 km maximum. Alors, c'est déjà un ultra hein, en soi. Hein, c'est très bien pour mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Mais voilà, cette année, j'ai poussé un peu plus mes limites en enchaînant pas mal d'ultra. Mettant du 350 km avec 12 000 de dénivelé. Donc voilà, plusieurs sorties solides et j'ai découvert notamment ben, mon premier 1 000 km début octobre. Donc voilà, ce que je peux retenir, c'est très gros apprentissage pour 2021.
Par rapport au triathlon, parce que tu étais très bon en Ironman, donc
Ouais.
c'était pour toi, quand tu étais en forme sur un parcours qui s'y prêtait, c'était disons 8h30 d'effort.
Ouais.
On appelle ça de la longue distance, de l'Ironman. On a l'impression que les mecs qui font ça on a l'impression qu'ils ont. Je sais pas comment le dire pour pas les vexer, parce que j'en ai quelques-uns qui écoutent et bon, je sais pas, voilà. Je vais pas non plus trop me moquer, mais quand même, par rapport à de l'ultra, qu'est-ce qui est le plus dur? Où est-ce que tu as le plus souffert? Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans la difficulté?
Alors déjà, mon premier 1 000, je peux dire que ça a été plus dur qu'un Ironman.
Ouais, ça en toute logique, mais par exemple, le Gravelman Terre Noire.
Ouais, Gravelman Terre Noire a été très très dur. Alors déjà parce que il était début avril, le 1er avril, donc c'était relativement tôt. Alors c'était un 350 bornes avec 6008 de dénivelé, je crois. 6005, 6008 à peu près. Donc en soi, un effort que je connais très très bien. Le seul problème, c'est que le dénivelé était très 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 mal réparti. Donc on s'est retrouvé avec les 20 premiers kilomètres, 1500 de dénivelé. Donc bah voilà, hein, au bout de 2 heures, t'as cramé toutes tes cartouches pour la journée. Donc merci Steven. Avec un mont Colombis d'entrée, voilà, une montée de 10 km à 11-12% de moyenne, donc quoi, ça te met bien dedans pour la journée. Ensuite, on est retourné du côté de Sisteron, et ensuite, on va dire que j'étais à peu près chez moi parce qu'on a tout contourné la montagne de Lure, donc quasiment retourné jusqu'à Sceaux et contourné tout derrière la montagne de Lure, direction Digne. Donc là, on va dire que c'était plutôt roulant, des faux plats montants, faux plats descendants. Donc voilà, ça allait. Et en fait, je suis arrivé au kilomètre 200. Donc il restait 150 bornes et avec, je ne dis pas de bêtises, mais quasiment 4 000 mètres de dénivelé. Et là, c'est très dur. Ouais, c'est très, très dur. Surtout que, bah, voilà, kilomètre 200, bon, bah, tu fais ta première pause. J'étais pas très bien. Donc je me suis arrêté un petit 20 minutes. Et voilà, j'ai fini comme j'ai pu, mais j'ai posé le pied assez souvent. Parce qu'il y avait des rampes à 15, 16, 17% pendant 500-600 mètres. Donc j'ai pas mal marché. Environ 4-5 km en tout, je pense, sur le parcours. Ouais, voilà, les 70 derniers kilomètres, c'était. Je regardais plus le compteur, mais je savais très bien le nombre de dénivelés positifs restants. Et là, ça faisait mal parce que sur les 70 derniers, je crois qu'il restait un peu plus de 2 000 encore. Et franchement, c'était dur. Ouais, très, très dur.
Le premier épisode que tu as fait qu'on a fait ensemble, tu m'avais dit, moi je pose pas le pied à terre, je fais du vélo, je fais pas de la marche à pied.
Ouais, c'est vrai, tu t'en
T'en
souviens.
penses quoi maintenant?
Tu t'en souviens bien. Alors après, je maintiens toujours ces paroles. Je reste humain, hein, donc c'est sûr que au-delà de 12% sur des distances comme ça, vaut mieux économiser le peu qui nous reste. Voilà, surtout que je crois que j'avais pris un braquet quand même relativement compliqué. Je crois que j'avais un 49-17, donc ouais, ça c'était assez lourd hein, pour les pétards qu'il y avait, c'était compliqué, mais bon, voilà, ça s'est fait. Ça a été dur, mais c'est passé. Ouais, c'est passé.
Est-ce que ça a quand même été une bonne préparation pour ce qui t'attendait, notamment les assassins après?
Ouais, alors
Ça t'a permis d'anticiper un petit peu, peut-être d'anticiper un truc que tu n'avais pas prévu, que tu pensais pas que ça serait aussi dur, peut-être?
c'est tombé que tu parles des assassins parce que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps notre épisode qu'on avait fait en mars dernier d'ailleurs.
Ah ouais.
Où on est venu à parler de l'étape des assassins via Patrick Sibaze. Et elle n'était pas du tout prévue, cette étape. C'était pas du tout au programme. Et en fait, je crois que ça a fait tilt quand tu m'as dit, quand je t'ai parlé de Seabase et que je t'ai dit, bon, moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Et en fait, tu m'as répondu, bon, bah, maintenant, il faut arrêter de parler et puis il faut montrer ce que tu peux faire, quoi. Et dans ma tête, ça a fait tilt et j'ai dit, bon, bah, l'étape des assassins, allez, gaz. Hein. Voilà, je crois qu'un mois avant, j'ai calé une date et puis voilà, hein, ça s'est fait.
Et ça s'est fait comme ça ou pas? Ou en gros, t'as un petit peu, t'as, ça t'a un petit peu asticoté les noyaux ou ça s'est bien passé?
L'épreuve s'est très bien passée. Ça s'est très bien passé. Je ne vais pas dire que c'était super simple parce que non, c'est clairement le truc le plus dur que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais vraiment de très 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 loin. Voilà, l'étape des Assassins pour ceux qui savent pas, donc Bagnères de Luchon, Bayonne, via 5 gros cols, donc Péressourde pour attaquer, Aspin en deuxième, le Tourmalet en troisième, et suivi de Soulor, Aubisque. Donc ça fait 5. Et il y en a un petit dernier qui paye pas de mine, mais au bout de 280 bornes, ça te termine. C'est le col d'Osquish. Voilà, rien d'important. Hein, c'est 9 bornes à 5%, mais
Et
c'est
quand tu peux plus, tu peux plus, quoi.
exactement très très dur. Très très dur. Ouais.
Et ça, tu l'as fait en quel temps par rapport à Patrick Sibaze?
Alors, Patrick Sibaze avait un. Alors, c'est. Ça a été un peu. Comment? Des malentendus, parce que c'est vrai que Red Bull et tous les gens qui ont un peu suivi Sibaze quand il l'a fait en 2015, ils ont communiqué sur un temps de 12h55. Et moi, voilà, plus les jours se rapprochaient, plus je checkais et tout. Et je me disais, ouais, franchement, moins de 13h, c'est. C'est compliqué, hein, honnêtement, ça fait rouler vite, ça les descentes, ça fait rouler très vite quand même, sachant que c'est relativement pentu. Donc, ben, ça m'inquiétait un peu. Et en fait, à un moment donné, je suis allé sur son travail, j'ai réussi à trouver la trace. Et en fin de compte, la durée de déplacement est de 16h30 ou 16h40, je crois. Donc, on est bien loin, entre guillemets. Ah, moi, je suis désolé, hein, tu prends le départ d'une épreuve à 8h. Tu termines à 20h le soir, bah, tu as mis 12h. Voilà, peu importe les pauses que tu as fait, et voilà, le temps, il est 12h. Donc, c'est vrai que ça a été un peu faussé. Et je me suis dit bah, que j'aimerais bien faire en fait 12h50, mais tout compris. Voilà, donc, tout incluse. Au moins, il n'y a pas de blabla, comme on dit, parce que c'est vrai que ça parle beaucoup. Mais ouais, j'ai de la chance d'avoir des gens un peu compréhensif et surtout dans le milieu sportif. Donc voilà, pour eux, c'était clair que voilà, le temps que Seabase avait mis pour faire la traversée, bah, elle est de 16h30 et elle n'est pas de 12h50. Voilà. Donc ben, moi, j'ai mis 13h50 en tout. Donc 1 heure de plus que ce que j'avais prévu. Et en temps de roulage, j'ai mis 13h. Voilà. Donc j'ai mis 50 minutes de pause en tout. Voilà.
Et sur les descentes notamment, qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes finalement? Ça a été les montées ou les descentes? Parce qu'on voyait qu'il avait une technique assez redoutable, mais on voit aussi sur la vidéo qu'il avait un staff solide, qui changeait régulièrement de vélo, et notamment certainement de roues aussi, et donc de pneus.
Ouais.
Toi aussi, tu avais un petit staff. C'est le moment où tu as eu un deuxième vélo ou il est arrivé après pour les 7 majeurs?
Non. Alors, Sibéz avait qu'un vélo quand il l'a fait. Les règles, c'était un vélo, un développement. Alors, c'est ce que je sais moi. Hein, voilà. Après, j'ai pas de preuves et peu importe. Donc, ben, moi, j'ai joué le jeu. Un vélo, un développement. Il n'y a pas eu de changement de côté de pignon. Voilà. Et je suis parti avec un développement. Donc, Patrick Sibaze avait un 47-17 et moi, je suis parti en 48-17. Voilà. J'avais une dent de plus devant. Voilà. Dans ta question, qu'est-ce qui a été le plus dur? Clairement les descentes.
Bah oui.
Ouais, clairement les descentes. J'étais pas prêt. Je le savais, mais je pensais pas ne pas être prêt à ce point-là, parce qu'honnêtement, je suis allé repérer un peu la veille, je suis allé repérer la première descente, donc Peyret Sourde, et en fait, je me suis fait peur la veille, j'ai basculé un peu, donc j'ai fait la montée du col de Peyret Sourde et j'ai basculé. Et en fait, j'ai vu que c'était vraiment raide. C'est une ligne droite en plus, donc il n'y a pas de virage, donc il n'y a pas de possibilité de, voilà, de vraiment s'arrêter pour prendre les virages et tout. Donc là, on est vraiment sur de l'emballage du pédalage, donc c'est vraiment dur à gérer. Et en fait, j'ai fait qu'un kilomètre, j'ai dit stop pour aujourd'hui. Voilà, j'ai arrêté de penser aux descentes et je me suis dit on verra demain sur le moment voulu. Voilà. Mais oui, clairement, les descentes, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Voilà.
T'as zappé les descentes le jour de la reco. Est-ce que tu y as repensé un petit peu le soir et le lendemain sur le vélo? Comment t'as géré ça?
Le soir, j'ai vraiment fait abstraction. Je suis passé à autre chose. Voilà, le but, c'était de kiffer le lendemain, surtout. J'étais vraiment en forme. Donc, le but, c'était de faire des grosses montées. Parce que voilà, je sais que Seabase a clairement une meilleure technique que moi en descente. Il maîtrise beaucoup plus le sujet en descente. Donc, ben, si je voulais le battre, moi, il fallait que je prenne de l'avance en bosse et que je maintienne quand même une descente relativement correcte, propre, voilà, sans m'emballer. Et voilà. Et le lendemain, c'est ce qui s'est passé, hein. J'ai quasiment fait toutes les bosses à un rythme. Très solide, franchement, vraiment bien. Peyret Sourde, je l'ai passé à une vitesse. C'était compliqué d'aller plus vite. Même mon équipe m'a dit mollo parce que c'est long. J'avais la chance d'être avec un mec du coin qui connaissait l'école par cœur. Donc, ça, c'était un gros plus. Parce que moi, évidemment, je connaissais zéro col. Voilà, j'avais repéré zéro col. Je n'avais jamais roulé dans les Pyrénées. Donc, c'était vraiment la découverte. Ouais, j'ai passé tous les cols solides. Donc Peyret Sourde, c'est bien passé. Aspin, c'est très bien passé. C'est un beau col. Ça reste relativement roulant à part les 2-3 premiers kilomètres au pied du col. Le Tourmalet, j'ai coincé évidemment à la Mongie. Voilà, au début de la station de ski, j'ai commencé à coincer un peu parce que ben, les pourcentages commencent à être un peu plus raides. J'avais 60 km avec quasiment 3000 déjà, donc ouais, ça commence forcément à piquer. J'avais déjà deux descentes breakless solides, donc voilà, j'avais les jambes qui commençaient à être entamées. J'ai fait ma première pause au sud du Tourmalet. Pourquoi je l'ai faite là? Parce qu'en fait, j'ai pris peur en voyant tous ces lacets dès le début. Dès le début, ouais, quand on est sur le sommet, il y a les 3-4 premiers kilomètres où ouais, ça descend raide. Ça descend raide, il y a pas mal de virages, c'est relativement technique. La route était pas en super bêta, il y avait pas mal de cailloux. Donc tout ça, ça se rajoute. Et en fait, tu restes très très concentré. Et je pense que même tout ce qui est concentration et même les nerfs, et bah, ça fatigue énormément. Ça pompe vachement d'énergie. Et puis ça s'ajoute au reste, quoi. Donc, ouais, descendre du Tourmalet a été compliqué, très compliqué, mais c'est passé. Mais c'est passé, voilà. Après, j'ai eu un petit moment de répit, on va dire. Après le Tourmalet, il y a une petite vallée pour rejoindre le col de Soulor et Aubisque. Alors, j'en avais entendu parler de l'enchaînement de ces deux cols. Et en fait, quand je suis arrivé en bas du Soulor, ça grimpait très, très bien. J'étais vraiment en forme. Et en fait, c'était long. C'était très, très long. Ça dure une quinzaine, vingtaine de kilomètres et en fait ouais, en plein milieu du Soulor, j'ai explosé complet. Là ça commençait à être très dur, très très dur. Je me suis arrêté même, je me suis arrêté 5-10 minutes sur le bas-côté parce que bah, clairement, ouais, j'étais fatigué et j'avais besoin de faire une pause pour me remettre dedans. J'ai enchaîné ensuite sur l'Aubisque. Magnifique. Enfin, j'avais jamais fait, hein. Donc j'ai découvert ouais, un panorama là, entre le Soulor et l'Aubisque. C'est juste, je crois que c'est le truc le plus beau que j'ai vu. Enfin, que j'avais vu parce que bien sûr, par la suite de la saison, j'ai vu des choses encore plus belles. Mais c'est vrai que ouais, le passage Soulor-Aubisque, il est très joli et ça fait du bien au moral aussi parce que tu penses un peu à autre chose et c'est cool. Et en fait, après, il restait ouais, la descente de l'Aubisque. Et là, ça a été, je crois, le début du calvaire. Parce que ben, descendre de l'Aubisque, c'est 12-13 km de descente à 11-12%. Donc là, clairement, j'avais les jambes, je ne sentais plus rien. J'ai dû m'arrêter quasiment 4 fois dans la descente parce que en fait, j'arrivais plus à bloquer ma roue, donc ben, mon pédalage il s'emballait et clairement ben, là ça commence à être très dangereux quand tu as les voitures qui montent, les vélos, 2-3 bus, ouais, c'était très dangereux. Donc là je me suis arrêté, ouais, je crois bien 5 fois quasiment dans la descente sur 12 km. Donc voilà, et là ouais, je me suis fait peur 2-3 fois parce que tu roules pas forcément très vite, hein. Je roule à 35-40 en descente, mais je connaissais pas la route et voilà, quand tes jambes n'ont plus la force de retenir ben, le poids du vélo plus l'inertie, ben ouais, ça fait tout drôle, ouais, ça fait drôle.
Pour rappeler ceux qui ne te connaissent, pour refaire un petit rappel à ceux qui ne te connaîtraient pas, donc tu fais tout ça en pignon fixe, évidemment, sans frein.
Ouais, alors celle-là, je l'ai faite sans frein parce que ben,
Donc,
les règles du jeu, c'était comme ça, c'était une vitesse
exactement.
et breakless, voilà, donc ouais.
Comment tu fais pour freiner, pour prendre un virage, ou pour simplement réduire ta vitesse sur une longue ligne droite, ou comme tu disais, ton pédalage s'emballe et à un moment donné, tu ne peux pas monter à 200 tours.
Voilà.
Donc, comment tu fais pour réduire ta vitesse?
Bon, alors, il y a deux
Explique ça.
voilà, il y a deux méthodes pour ralentir ou freiner son fixie. Celle que j'utilise le plus souvent, on va dire, c'est forcer pour réussir à diminuer sa cadence de pédalage. Donc voilà, alors c'est sûr, ça met plus de temps qu'un dérapage, mais en général, c'est la méthode que j'utilise le plus. Voilà, diminuer, se forcer à ralentir sa fréquence de pédalage. Et forcément, on ralentit. Alors, voilà, on ralentit sur plusieurs mètres, hein, c'est pas instantané. Ça, c'est la première méthode. Et la deuxième, on va dire, celle qui va te ralentir beaucoup plus rapidement, c'est la méthode du skid, donc du dérapage. Donc là, c'est relativement simple à expliquer. C'est, je mets mon poids sur l'avant du vélo. Donc en gros, je me lève de la selle et je mets mes pédales comme ça, on va dire, hop, à l'horizontale. Il y a un pied qui appuie et l'autre pied qui tire en fait. Et voilà, ça allège. Vu que j'ai allégé l'arrière du vélo, ça bloque la roue arrière tout simplement. Et j'effectue un dérapage. Voilà.
Sur la première méthode que tu as décrite, ça ressemble beaucoup à une contraction excentrique. Donc, quand par exemple, pour un coureur à pied, ce qui est finalement difficile dans les descentes, en course à pied, pardon, ce sont les descentes qui vont vraiment fracasser. Là, ça y ressemble énormément finalement.
Ouais, carrément, parce
Donc,
que.
c'est ça qui va te fracasser finalement, non seulement les genoux, mais également les cuisses et au passage, ta chaîne, très
Ouais,
éventuellement.
ma chaîne aussi. Et surtout les ischios. Ouais, je rajoute aussi les ischios parce que. Ouais, les ischios. Les ischios surtout, ouais. Cuisse, ischios, voilà, en fait. Surtout sur la méthode du skid où on bloque vraiment la roue arrière. On est obligé quand même de donner un à-coup sur la pédale. Voilà. Choix qu'on fait, mais voilà, c'est un blocage net qu'on fait, donc on casse de la fibre musculaire, que ce soit les cuisses, les ischios, donc voilà, ça marche, c'est bien de temps en temps pour se faire plaisir, mais c'est vrai que sur une étape comme ça, ouais, ça fait mal, ça fait très mal.
Bah, puis en plus, si tu voulais tenir les règles du jeu, tu avais aussi la contrainte de garder des pneus jusqu'au bout.
Ouais, alors.
Parce que tu m'expliquais que sur une descente du Ventoux, tu crames ton pneu arrière.
Ouais, c'est ce que je t'avais dit, donc c'était la vérité. Alors à l'époque, je roulais pas, peut-être pas avec des bons pneus, disons pas des pneus adaptés à cette pratique. J'ai la chance d'être chez Michelin depuis 1 an. Ils ont un pneu que j'ai découvert, le All Saison, donc un pneu plus résistant et entre guillemets passe-partout. Qui est terrible, franchement, j'ai rarement vu, voilà, pour ce pratique-là, un pneu aussi solide. Pour te dire, hein, l'étape des assassins, j'ai pas changé de pneu. Donc le pneu, il a tenu. Bien sûr, il était neuf la veille. Voilà, je l'ai changé la veille. Il a fait l'étape des assassins et j'ai roulé 2 mois encore derrière avec. Voilà, donc il a tenu.
On s'est parlé un petit peu après l'étape des assassins, parce qu'on a préparé la voix off de ton du film ensemble. T'as mis combien de temps à t'en remettre, physiquement et moralement? Ça a été long, je crois.
Physiquement, j'avais mis le lendemain 2, 3 stories sur Instagram. Je pouvais plus marcher, clairement. Mais c'était pas une blague, hein. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages. Fais pas, abuse pas, fais pas exprès et tout. Donc non, clairement, en fait, je pouvais plus marcher. Presque, si j'avais eu des béquilles, bah, ça aurait été cool. Franchement,
Ça t'aurait aidé, ouais.
ça m'aurait soulagé. Voilà, je me soulagerais avec les bras. Donc non, c'était musculairement, j'ai mis une dizaine de jours à m'en remettre. Mais vraiment, voilà, avant de plus avoir de courbatures, que toute ma fibre musculaire se régénère. Et mentalement, j'ai mis un gros mois. Il y a eu un gros mois pour me remettre de tout ça. Ouais. Ouais.
Donc, dans ce mois, mentalement, il s'est passé quoi? T'avais plus envie de monter sur le vélo, t'es... Ça
Non.
se traduit par quoi cette fatigue mentale?
Non, je vais. Alors j'ai mis quand même un gros mois parce que voilà, hein, c'était un effort assez violent. J'ai trouvé ça quand même relativement rapide au vu de l'effort, parce que ça passe toujours mieux quand tu réussis un de tes objectifs. Ta tête, tu te dis, bon, j'ai quand même mis quasiment 2h20 de mieux que Monsieur Seabase. Donc dans la tête. Bah, j'étais content, quoi. Voilà, donc je sais que le taf a été fait correctement, et puis ça te motive aussi pour les objectifs, voilà, sur la saison. Et du coup, non, là, je sais que 3-4 jours après, j'étais de nouveau sur le vélo pour ben, voilà, faire entre guillemets une récup active. Alors, je faisais pas des 100 bornes, hein, bien sûr, mais voilà, des 20-30 km pour le plaisir. Pour aller voir les potes à droite à gauche, mais voilà, c'était vraiment du plaisir, sans compteur, sans rien du tout. Voilà.
Et ça a eu quelle répercussion? Parce que tu as battu Seabase, qui est soutenu par Red Bull, il y a une grosse machine de communication derrière. Toi, tu arrives, tu es dans le Vaucluse, personne te connaît, tu débarroules, tu plantes le record. Est-ce que ça a eu des répercussions ou est-ce que tu es passé inaperçu?
Non, c'est passé inaperçu. J'avais fait le choix de faire un petit film.
A bien marché, d'ailleurs, il a 12 000 vues, pour info.
14 000, ouais,
Voilà,
14 000.
bah tu vois comme quoi.
Ouais, ça a bougé, et toutes les semaines, ça bougeote un peu. Donc, bon, c'est un grain de sable, hein, parmi tout ce qu'il y a sur YouTube. Mais bon, voilà, c'est toujours agréable. Il y a pas mal de commentaires cool. Donc, non, c'est vraiment bien. Ça a bien marché sur Insta aussi. Les gens qui me suivent ont kiffé ça. Et voilà, j'ai souvent eu, après mes défis, ouais, il y a un film et tout. Et ben, malheureusement, voilà, le film des Assassins, par exemple, bon, ben, voilà, je l'ai financé. Donc, je peux pas me permettre de financer un film par aventure, parce que bah, malheureusement, ça coûte un peu cher. Donc voilà, j'aimerais bien, forcément, j'aimerais bien, dans un premier temps, pour moi, parce que ça fait des souvenirs, c'est toujours agréable à regarder et à partager avec les potes ou la famille. Mais ouais, non, malheureusement, je fais pas ça pour toutes les aventures, et c'est bien dommage, parce que j'ai encore fait, voilà, par exemple, les 7 majeurs. C'était une dinguerie, ce truc, et c'est dommage que ce soit pas médiatisé. Mais voilà, non, il n'y a pas eu de répercussions ou autre, quoi. Voilà. Alors, il y a eu un truc hyper cool d'ailleurs de la part de Seabase. Tu vois, j'ai quand même eu un message de sa part la veille des assassins. Donc, merci à lui. Quand même, c'était cool. Voilà, me souhaitant bonne chance et d'être solide. Donc, bah, franchement, c'est cool. Ça veut dire qu'il avait quand même un petit regard tourné bah, du côté des Pyrénées le 29 mai. Donc ça, j'ai trouvé ça cool de sa part, pour une fois.
Il t'a écrit la veille?
Ouais. Ouais.
Ouais. Et après, il t'a écrit ou pas?
Non. Voilà.
La coolitude a ses limites quand même.
Ouais, mais bon, j'ai trouvé ça cool, parce que franchement, je lui ai envoyé plusieurs messages depuis quelques années, et bien sûr, jamais une réponse, comme la plupart des gens qui lui écrivent, je pense. Mais non, j'ai trouvé ça cool de sa part quand même. Mais bon, voilà, ça reste là.
Ouais. Tu me dis, il y a eu pas mal de messages cool sur YouTube. Est-ce que sous-entendu, il y a eu des messages pas cool?
Non, 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 zéro, franchement, je crois
Pas
qu'il
de haters, très bien.
Comment?
Pas de haters, pas de, mais à
Non,
quoi ça
non,
sert? C'est de la connerie.
non. Il y
C'est
en a.
irresponsable, t'as pas de frein.
Ouais.
Et puis si t'as un accident, c'est les pompiers, et puis c'est nos impôts.
Ouais, non, franchement, il y en a eu zéro, mais quand je te dis zéro,
Bon.
zéro, ou alors j'ai pas vu passer, mais non, il y en a, vu qu'il y en a peu et que j'ai mis les notifications en général, je les ai tous vus passer. Non, zéro message voilà, de haine ou autre, et puis c'est top, tant mieux.
Tant mieux.
Voilà, j'essaie de répondre aussi à tout le monde dès que je peux, mais non, plutôt des gens impressionnés. Parce que soit des gens qui habitent dans le coin là-bas, qui font un peu de vélo et qui connaissent la difficulté, soit la communauté du Fixie, voilà, qui savent que bah, la descente du village pour aller chercher le pain sans frein, c'est chaud. Donc là, s'attaquer à des cols dans les Pyrénées, ben, voilà, ils connaissent la difficulté. Donc voilà, non, vraiment que du cool à chaque fois, beaucoup de conseils, beaucoup de gens qui veulent se mettre au Fixie. Enfin, non, c'est cool, hein, c'est cool.
Bon, on va peut-être assister à un renouveau du Fixie en France, alors grâce à toi, ça serait bien.
Grâce à moi, je sais pas, mais il y a toujours une petite communauté de Fixie dans les grandes villes surtout. Donc, non, c'est cool.
Ouais.
Franchement, c'est cool.
Il ferait mieux d'aller à la campagne parce que le Fixie en ville,
C'est clair.
c'est bien pour faire le pinpin sur les trottoirs avec la chaîne en travers des épaules, mais
C'est sûr.
bon, les mecs, on est à Paris, hein, on n'est pas à New York. Hein.
Ouais,
Pas la peine de se la, c'est pas la peine de se la péter. Hein.
bah
M'en fous, il m'écoute pas.
ouais, c'est
Donc,
sûr.
je suis pas assez hype, donc c'est pas un problème du tout.
Pour le
Et les
moment,
sept majeurs,
ouais.
alors, c'était joli?
Ouais.
La Foniera, tout ça, Aniel, c'était fun?
La fournira, j'en sais rien. Sans père, j'en sais rien. La lombarde, j'en sais rien. J'ai tout passé de nuit. Les sept majeurs, du coup, ça avait été programmé à la base autour du 17-18 juillet. Et à cette époque-là, il y a eu des grosses intempéries. De la neige à 2000 mètres, donc en plein mois de juillet. Donc, bah, du coup, avec ma petite équipe, bien sympa, du coup, cette fois-ci, la petite équipe, c'était vraiment cool de partager ça.
Était bien entouré en
Ouais,
effet.
franchement, ouais, cette année, ça va rester une de mes plus belles épreuves que j'ai faites et surtout partager ouais, avec du beau monde, quoi. Donc, ça, c'était vraiment cool. Donc, du coup, les 7 majeurs, ça a été décalé à une semaine après. Donc, aux alentours du 24-25, je crois que j'ai fait 24-25 juillet, avec un départ de Briançon à 18h. Voilà. Donc, ben voilà, 7 majeurs, 365 km et 12 000 mètres de dénivelé environ. Voilà, certains ont 13 000. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font, s'ils se font un 5 ou 6e col, je ne sais pas, mais non, il y a environ 12 000 mètres de dénivelé. Bah écoute, ça s'est bien passé dans un premier temps. L'objectif était de faire moins de 24 heures. Donc, objectif réalisé. Je fais 21h03. Donc, franchement, c'était propre parce que c'est quelque chose de compliqué parce que du coup, je suis habitué à faire des efforts de 350 km, mais entre 6 et 7 000 de dénivelé. Là, il y en avait 5 000 de plus, donc on doublait quasiment le D+. Donc c'est chaud, c'est chaud, c'est très chaud. Alors, vu que ça n'avait jamais été fait en fixie, j'ai fait, entre guillemets, j'ai créé mes règles du jeu. Donc j'avais deux vélos. Voilà, j'avais un vélo monté et un vélo descente. Voilà, tout simplement.
C'était quoi la différence entre les deux?
Et le braquet.
Toujours
Voilà.
pas de frein, toujours pas de frein?
Et le frein, bien sûr. Et
Ouais.
le braquet montagne. Donc, braquet montagne, relativement solide quand même. J'avais un 42-18, je crois. Donc,
Ouais, mais pour les pourcentages de Haniel, de tout ça, c'est il fallait bien ça, certainement.
ouais, c'était même. Alors, pour l'isoire, c'était très bien. Tu pars, t'es frais, c'est nickel. En plus, je suis parti. À 18h, je crois que j'avais regardé sur Météo Ciel, 18h03, ils annonçaient un orage de bâtard. 18h03, je prends une rincée comme pas possible. Je prends de la grêle, mais de la grêle sévère. Voilà, c'était tout blanc par terre. Donc là, je me suis dit, ouais, dans la tête, là, ça a été chaud. Parce que je me suis dit, enfin, je savais ce qui m'attendait en termes de parcours. Si les conditions étaient comme ça, honnêtement, là, ça rajoute quand même une grosse, grosse difficulté parce qu'on passe des cols à quasiment 2800 mètres à chaque fois. Donc, c'est chaud, c'est très, très compliqué. Et en fait, en avançant au fur et à mesure sur le col de l'Izoard, j'ai vu que le sommet était tout dégagé et grand ciel bleu. Donc, en fait, j'ai fait le choix d'appuyer dès l'Izoard, donc vraiment de monter fort l'Izoard. De mémoire, je crois que je monte 1h02 côté Briançon. Donc, pour ceux qui ont déjà des temps de référent, je pense que ça fait un peu
Amplitude. En plus, par contre, autant tu connaissais pas les Pyrénées, par contre que l'Izoard, tu le connais bien quand même.
ça. Je l'ai jamais fait, pour te dire, je l'ai jamais fait côté Briançon. Je l'ai
Ah oui. Oui,
descendu
parce que
pendant l'entraînement.
je le connais pas, mais toi, vu que tu as couru en brun, enfin l'Ironman d'Embrun,
En fait,
je sais pas par quel côté il passe.
ce que j'ai monté là, je l'ai descendu pendant l'Embraman.
D'accord.
Voilà, mais bon, bref, peu importe, il n'y a rien de très dur dans l'Izoard. Hein, voilà, ça monte, je ne sais plus, 14 km, enfin, un truc comme ça, mais il n'y a rien de compliqué. Donc, très très bien passé. Je suis arrivé là-haut, changement de vélo, ça bascule, direction Arvieux. Et ensuite, directement le deuxième col. Donc, l'avantage des 7 majeurs, c'est que ça s'enchaîne, hein, ça va vite. Hein, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Il n'y a quasiment pas beaucoup de vallées. Il y en a un peu sur la fin, mais voilà, les 4 premiers cols, c'est un enchaînement de montagnes. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup même. Col Agnel, du coup, le deuxième. Écoute, c'est voilà, le truc le plus beau que j'ai fait dans ma vie cette fois-ci, c'est le col Agnel. Magnifique. J'ai assisté à, c'était quoi, 21h, je crois, ou même pas, 20h30. J'ai assisté à un coucher de soleil sur le sommet. Ouais, c'est le truc le plus beau que j'ai vu jusqu'à maintenant en vélo. Et j'ai jamais fait le col Agnel. Et c'est juste magnifique. C'est tellement sauvage, tranquille. Bref, un régal, quoi. Un régal. Donc, ouais, deuxième col, c'est bien passé. Ça remonte un peu solide hein, sur la fin du col Agnel. Les pourcentages augmentent un petit peu plus, mais voilà, c'est bien passé sur la fraîcheur, ça allait encore. Donc voilà, c'est bien passé. J'ai fait une première pause au-dessus du col Agnel, juste pour admirer le paysage. Donc voilà, coucher de soleil côté France, voilà, donc fabuleux. Et la bascule en Italie, du coup, voilà, sur la suite du parcours avec ouais, des virages superposés. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais.
Pas encore.
Encore, franchement, moi, tous les gens qui m'ont demandé, faut y aller parce que franchement, quand tu arrives sur le sommet, donc avant la bascule côté italienne, oh, c'est trop beau. Enfin voilà, tu as vraiment, mais tu vois, les virages superposés en perspective, mais en fait, tu n'arrives pas à savoir si ça monte, si ça descend, c'est incroyable. Et voilà, donc du coup, la bascule, je prends mon pied dans ces virages, c'est hyper ludique, c'est un peu technique, il n'y a personne, donc je profite, je coupe les virages, enfin, c'est super sympa. Et j'arrive au pied de cette descente, et là j'avais 10 bornes de faux plat descendant où ça roulait plutôt bien parce que j'avais un vent favorable. Donc écoute, tous les kilomètres gratuits, je les ai pris hier, donc tu vois, je roulais assez fort, je roulais à 47, 48 km/h. En fixie, c'est rapide. Ouais, je précise que je devais tourner les jambes à 120 tours minute, donc ouais, c'est rapide. C'est rapide, rapide. Et du coup, me voilà côté italien pour le troisième col. Alors, j'ai un doute, mais c'est sans paire le troisième. Je crois que c'est sans paire. Il faisait nuit. Donc, j'ai attaqué le troisième col de nuit. Et là, une petite dédicace à Pierre Ridjou qui avait fait les 7 majeurs l'année dernière, en 16 heures d'ailleurs, belle machine, où il avait dit, fais gaffe, tous les cols côté italien, les routes sont défoncées. J'ai dit, ouais, pas de souci. Et en fait, j'ai compris, ouais, dès les premiers mètres de la montée, j'ai compris que ouais, c'était du gravel, quoi. Donc, quoi, ouais, des trous, de la route cabossée, du caillou, voilà, du rocher, des graviers, enfin voilà, vraiment de tout. Mais c'était cool, franchement, c'est bien parce qu'au moins tu t'endors pas, tu restes bien attentif, même en montée. Donc écoute, j'ai passé le col relativement bien, franchement, j'étais encore très très bien. Donc pareil, j'arrive là-haut, changement de vélo. Alors, le petit rituel à chaque fois que j'arrivais là-haut, c'était ouais, mon équipe m'attendait, ravitaillement, et fringues. Donc voilà, parce que ben, il faisait pas très froid, j'avais 7-8 degrés au-dessus des cols. On était à peu près à 2000, entre 2004 et 2800 à chaque fois. Mais j'avais de la chance avec le temps, franchement, c'était vraiment agréable, j'ai pas eu froid. Donc voilà, j'ai attaqué la première descente, enfin, la descente du col de Saint-Père. Et là, ça se complique un peu parce que ouais, c'est très technique. Entre ben, les trous, les routes étroites, les rochers, les graviers, tous les petits pièges à la con, quoi. Les tirages serrés, enfin voilà, plein de petites choses. Mais franchement, ben, je me suis régalé. J'ai kiffé les routes comme ça parce que ouais, ça te maintient. T'es obligé de rester éveillé parce que là, la moindre erreur, ben voilà, franchement, tu te mets par terre. Tu te mets par terre, tu te fais mal et puis ben, tu peux dire au revoir au défi. Donc voilà, arrive le quatrième col. Ça s'enchaîne vite, hein. Franchement, c'est je monte, je descends, je monte, je descends. Fornira. Fornira, donc là, ouais, pareil, Pierre m'avait bien briefé et il m'avait dit celui-là, il va faire mal parce que. Parce qu'il y a du 20%, il y a des passages raides à 20%, donc voilà, j'étais prévenu et je le savais. À ce moment-là, il y a Benoît Gandolfi, du coup, qui est monté sur le vélo. Je lui ai demandé qu'il vienne sur le vélo parce que je commençais à fatiguer. Alors j'étais bien, mais voilà, je sentais que ben, il fait nuit, ça fait 8 heures que je pédalais, donc j'avais besoin d'une petite compagnie. Même on n'a pas parlé, hein, mais voilà, j'avais une compagnie et c'était cool. Il est parti vite. Parti très vite et j'ai pris le risque de le suivre en fait. J'ai pris le risque de le suivre parce que j'étais quand même relativement bien. Et puis ça roulait, voilà. Et en fait, arrivé au milieu du col de Fornira, j'ai fait une petite pause pipi. J'aurais peut-être pas dû en fait. J'aurais peut-être pas dû parce que je suis remonté sur le vélo, voilà, après la pause pipi et première bosse à 20%. Et en fait, ma chaîne a lâché. La chaîne a cassé dans Fournira, quoi.
Quel est le rapport avec le pipi? T'as pissé sur ta chaîne? Parce que là,
Ouais,
on peut,
je sais pas. Non,
ça peut alerter certaines autorités quand même, hein, pour info.
mais j'ai dû me refaire la cerise, je pense. Et voilà, je suis reparti.
T'es remonté comme une brute et bim!
T'as tout
Le
compris.
coup en trop, quoi.
Alors, j'ai eu beaucoup de messages. Ouais, pense à mettre des chaînes neuves et tout. Et la chaîne était neuve. J'ai juste envie de dire, voilà, il y avait trop de watts à ce moment-là, et puis c'est tout, quoi.
C'est pas de bol, quoi. Le coup est parti de travers et bim!
C'est ça, donc voilà, bon, chaîne cassée. Alors, le gros problème, alors qu'il n'y en était pas un, parce que j'avais une chaîne de rechange, le problème, c'est qu'elle était dans la voiture. Et en fait, Mich et Steph étaient montés dormir. Voilà, je leur avais dit, montez, voilà, vous avez 1 heure et demie, moi, le temps que je monte. Montez, vous calez, vous dormez là-haut tranquillement le temps que j'arrive. Sauf que j'ai cassé la chaîne à 6 bornes du sommet. Pas de réseau. Réseau italien, ça marchait, mais voilà, on était vraiment dans un endroit sauvage et on captait rien du tout. Donc ben, la solution a été que Benoît est monté le plus rapidement possible. D'ailleurs, merci à lui parce qu'il s'est mis la peau. À 2 heures du mat, voilà, dans un col compliqué, et voilà, pour aller prévenir qu'il fallait redescendre avec la voiture. Moi, en attendant, ben, j'ai poussé le vélo pour perdre le moins de temps possible. Donc, je marchais, je courais. Des fois, il y avait des parties un peu descendantes, donc je remontais sur le vélo, je faisais de la trottinette. Bref, un petit moment où, voilà, où tu te remets un peu en question, où tu te dis putain, vas-y, fais chier, voilà, c'est 2 heures du mat, t'es fatigué, ça t'énerve. Enfin, là, tu montes, enfin, moi, je monte relativement vite dans les tours pour des conneries comme ça. Alors là, c'est la faute de personne, hein. La chaîne a été neuve, c'est voilà, c'est sport mécanique, ça fait partie du jeu. Heureusement que j'avais prévu une chaîne neuve, voilà, maintenant je commence à anticiper toutes ces conneries pour voilà ben, pour pas foutre en l'air le défi parce que là ben, si j'avais pas eu de chaîne je faisais rien, voilà, je montais dans la voiture et puis ben voilà, c'était plié. Donc voilà, ben, j'ai marché une bonne demi-heure en tout, enfin, entre marche et course à pied, et j'ai changé la chaîne. Je l'ai fait moi pour que ça aille bien plus vite parce que j'étais ben, le plus calé on va dire en mécanique et puis que ce soit bien fait quoi. Et je suis reparti. Alors le problème, c'est que ça m'a coupé les jambes. Ça m'a vraiment coupé les jambes parce que je suis reparti. J'ai vraiment eu du mal à finir ce col. Il restait 4 bornes. C'était compliqué. J'ai eu froid du coup. Je me suis beaucoup refroidi. Donc là, je suis arrivé au-dessus du col. Je me suis changé et je suis vite redescendu. Mais la descente m'a refaite. J'ai réussi à bien me refaire la cerise dans la descente, donc ça a été cool et heureusement. Mais ouais, beau souvenir. Maintenant, j'en rigole maintenant, quelques mois après, mais ouais, sur le moment, c'est chaud. Sur le moment, c'est chaud.
Et la suite, facile, enfin facile non, mais je veux dire dans la même, dans la continuité.
La suite dans la continuité, donc col de la Lombarde, col de la Lombarde, cinquième col, rien d'exceptionnel, hein, c'est 20-21 km à 8,5% de moyenne quand même. Donc bon, ça reste des cols solides, mais ça passe normalement. Alors a été compliqué quand même. Alors Benoît m'a accompagné sur ce col-là, je lui ai demandé de faire l'effort de m'accompagner parce que je commençais à m'endormir et en fait, avant de casser ma chaîne dans le col d'avant, j'avais dit à mon équipe, avant la Lombarde, je m'arrête une demi-heure pour dormir parce que je sentais que j'avais besoin. Et en fait, cette histoire de chaîne et de perdre une demi-heure m'a reboosté en fait. Et voilà, j'ai pas dormi, je me suis pas arrêté quoi. Donc je suis reparti, mais c'est vrai que la Lombarde, j'avais peur de flancher un peu et de fatiguer. Et le fait que Benoît l'ait fait avec moi, bah, c'est quand même mieux passé. Alors bien que c'était long, parce que 21 bornes à 8,5, bah, c'est long. Quasiment 2 heures pour monter. Donc ouais, ça fait long. Hein. C'était le soleil était en train de, enfin voilà, le jour était en train de se lever. Donc ouais, ça commençait à être dur aussi. J'avais quoi? J'avais 280 bornes déjà avec quasiment 9000 mètres de dénivelé. Donc forcément, bah, j'étais pas non plus frais, mais ça allait. Franchement, ça allait. Par contre, voilà, j'arrivais pas à m'alimenter, j'arrivais plus à m'alimenter dans le col de la Lombarde. Que ce soit en bouffe, que ce soit en boisson, j'arrivais plus à rien prendre. Et pourtant, j'avais besoin parce que je sentais que mon énergie était en train de baisser. Et j'ai galéré toute la montée pendant 2 heures, impossible d'avaler un truc. Et sur les derniers mètres de la bosse, j'ai réussi à, je sais pas, un bol d'air. Et en fait, je suis arrivé là-haut et j'ai réussi à manger, en fait, à bien manger, parce que j'ai mangé de la rosette, j'ai mangé des M&M's. En fait, j'ai mangé tout ce qui passait, tout ce que j'avais et tout ce dont j'avais envie. Je crois que j'ai bu 2 coca et voilà, j'ai dit à mon équipe, je me change complètement parce que là, j'étais gelé. J'étais vraiment fatigué, donc je me suis mis en mode hiver comme jamais. Je me suis mis la cagoule, les gants, les surchausses, j'avais tout en hiver. Et la descente de la Lombarde, je me suis vraiment refait à neuf, mais à 90%. Et c'était bien cool, ouais, c'était bien cool. Voilà. J'ai enchaîné sur la Bonnette. Donc la Bonnette, eh ben, c'était long.
C'est long la bonnette, hein.
La Bonnette, c'était long. Je dis pas de conneries, 25-26 km, je crois. Je sais même plus par quel coin je l'ai attaqué là. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom de là où je l'ai attaqué, le bled. Je sais plus. Je connais pas très bien, mais voilà, c'était très long. 2h15, je crois. 2h20 pour monter, j'ai mis. Très long. Très chaud, j'ai eu très très chaud. Je me suis arrêté une fois en plein milieu, à côté d'une marmotte d'ailleurs, enfin, juste exceptionnel. Je me suis arrêté dans un ruisseau qui était complètement gelé et je me suis arrosé complet. Je suis même reparti, j'avais froid, mais bref, ça m'a fait du bien. Arrivé là-haut, j'ai dit merci à un de mes potes, Pierre d'ailleurs, qui m'a accompagné sur le col de la Bonnette. Donc merci à lui d'ailleurs de m'avoir accompagné, c'était super moment. Voilà, et la descente de la Bonnette. Dis-toi que je me suis arrêté 2 fois dans la descente parce que c'est pareil, c'est hyper long. J'avais ultra mal aux mains, j'avais la paume des mains, mais à force de tenir le guidon, de freiner, enfin voilà, j'avais tout sur la paume des mains, donc j'avais des grosses ampoules sur la paume des deux mains. Donc ouais, ça a été très long à descendre, mais bon, bref, je suis arrivé en bas. Et le dernier, hein, dernier pour clôturer, Vars. 9 bornes de montée, ouais, 8% de moyenne, pareil, rien d'exceptionnel. 1 h 15 pour monter. J'ai l'impression d'avoir mis 3 heures. Il était midi, je crois, un truc comme ça, midi ou 1 h, pleine cagne. Franchement, il faisait 32, 33 degrés. Voilà, tu montes comme tu peux. Voilà, j'avais 11 500 mètres de dénivelé dans les jambes avec 300 bornes, je crois. Donc j'étais un peu calmé, on va dire. Mais voilà, 1 h 15 pour monter. Et puis voilà, la bascule Guillestre. Et il restait le fameux tronçon Guillestre-Briançon qui est pas tout repos parce que il reste 30 bornes avec 500 de dénivelé, avec une bonne petite côte, enfin bon bref, un bon vent de face pour terminer. Et bien sûr, une petite crevaison à 4 bornes de l'arrivée où tu finis sur la jambe parce que voilà, t'as pas envie de t'arrêter pour 4 bornes et voilà.
Bon, je vais poser la question piège. T'es en tubeless ou en chambre à air?
Je suis en chambre à air. Je suis en chambre à air.
Eh bien, écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée. Et bonjour chez toi.
Ah, mais il y a que les gens gravel qui roulent en tubeless. Non.
Non, Brognard, attends, Brognard, il fait pas de gravel, il est en tubeless, hein. Il en est
Non,
très heureux.
je vais t'expliquer pourquoi.
J'aimerais bien parce que j'ai deux, trois questions après pour toi là-dessus. Et on va même parler d'un truc super chelou en pignon fixe.
Ah, bien sûr, j'ai roulé en tubeless sur le spé que j'avais, sur le fixie spé que j'avais, donc l'année dernière. Et en fait, je bouffe tellement les pneus quand je fais le con à faire des freinages que
Ouais.
voilà, quand j'éclate le pneu, je me fous préventif de partout. Tu pourris tes fringues, ça les tache. Ton vélo à nettoyer, il y a tout qui colle, il y en a plein la chaîne et tout.
Ouais.
Et la difficulté du pneu tubeless aussi quand tu crèves, si tu as besoin de mettre une chambre à air, bon voilà. Ils ont une fringue quand même bien rigide et qui est bien plus compliquée quand même à enlever qu'un pneu classique, la chambre à air. Voilà, moi c'est la seule raison pour laquelle je roule en chambre, bien que le tubeless soit très bien. Voilà, mis à part qu'il faut faire la pression tous les jours avant de partir rouler, voilà, c'est très bien.
Est-ce que tu regrettes ton choix de frein sur ton vélo de descente?
Non.
Non, non. Sinon, tu serais mort
Non,
aujourd'hui.
clairement, je vais être honnête. Je vais être honnête. Bon, j'aime bien me la raconter et tout, mais là, faut être quand même respectueux envers la montagne. Je pense que c'est impossible en breakless. Je pense que les 7 majeurs en breakless, c'est impossible. Clairement, c'est impossible. Voilà.
Est-ce que l'option patin est suffisante? Parce que tu me dis qu'au bout d'un moment, tu avais un petit peu une crispation. Est-ce que
Ouais,
tu n'aurais pas eu l'idée de mettre un frein à disque?
j'ai l'idée depuis maintenant 2 ans que voilà, je m'attaque à des choses un peu compliquées et surtout à de la montagne. Alors, pour la montagne, voilà, c'est pas voilà, quand tu fais un gravelman ou une race au Cross France 300, voilà, c'est pas de la grosse montagne, c'est de la descente, on va dire. Voilà, tu as 10 km de descente au maximum, tu freines pas sans arrêt. Donc, tu n'as pas cette contrainte sur tout ce qui est paume de main et même les doigts, hein, parce que j'avais très très mal aux doigts, même à force de freiner. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans que j'y songe. Un certain Mister Home sur Instagram, un Italien qui fait du pignon fixe, qui roule qu'en pignon fixe et qui fait beaucoup de montagnes comme moi, lui roule même avec un cintre, avec les cocottes route. Et un frein disque à l'avant et patin à l'arrière. Je dis pas que j'y viendrai pas au frein disque avant, mais pour le moment, non, pour le moment, voilà, ça suffit amplement. Voilà. Alors après, je pense que c'est du confort supplémentaire, bien sûr, mais pour le moment, déjà par faute de moyens aussi, parce que mine de rien, ben, il faut acheter une fourche parce que,
Ouais.
voilà, pour qui accepte le disque. Et après, voilà, c'est toujours pareil, hein, un disque, un étrier, cocotte, est-ce que je mets une cocotte route, est-ce que je mets un frein VTT, voilà, enfin bon, bref, un peu tout ça, mais non, voilà, pour le moment, voilà, une bonne fourche, faut compter un petit billet quand même, mine de rien. Et bien sûr, moi j'ai envie d'avoir quelque chose qui tient la route. Donc voilà, ça va être un billet de 6, 800, 1000 euros qui va passer rien que dans la fourche. Donc non, pour le moment, ce n'est pas la priorité.
Ouais. Sur tes pneus, bon bah là c'est un petit peu biaisé parce que t'es en chambre à air, mais il y a 2 semaines avant les fêtes, j'ai eu une longue discussion avec un mec de chez Zip, donc Bastien. Je pense pas qu'il écoute, mais au cas où, eh ben, je le salue bien bas. Et on parlait de pression tubeless, etc. Les tests de l'équipe Movistar en tubeless sur les pavés. Grande découverte, ils ont découvert qu'on passait plus vite en tubeless qu'en chambre à air, parce qu'on est moins gonflé. Bravo les mecs. Par contre, il m'a aussi raconté l'anecdote de mecs de chez Renéers qui font du crit et eux font les crits en 35.
Ouais.
Toi, t'as
D'accord.
combien?
Moi, je suis roulant 28. Roulant 28.
Tu passerais pas en plus gros?
Non, pourquoi? Parce que tout simplement, ça passera plus déjà. Voilà,
C'est vrai
sur.
qu'il est. C'est vrai qu'il est un petit peu. Il est un petit peu serré le tien quand même, hein,
Voilà,
en
sur
vélo.
le cadre, clairement, ça passera pas. Le 28, c'est le max qui passe. Après, je sais pas. Franchement, là, je 35, ça me paraît gros quand même.
32 peut-être.
30, ouais, 30.
Ouais.
Là, j'ai, ouais, 30, 30, je pense que c'est bien. Après, au-delà, il faut le tirer quand même. J'ai déjà roulé, moi, avec un vélo route, avec du 32, 35. Oh, on est collé quand même.
Oh.
Là, il y a une résistance, quoi, je veux dire. Je veux dire, ça, c'est plus difficile à emmener qu'un 28 ou un 25, quoi. Donc voilà, après non, on me pose souvent la question, tu roules en combien? Donc ouais, moi je roule en 28 toute l'année. Voilà, peu importe, compétition, pas compétition, toute l'année je roule en 28.
Quand tu t'es pointé au Biking Man,
Portugal.
lequel? Portugal, t'es arrivé dans quel état d'esprit quand tu as vu la distance, quand tu as vu le dénivelé et surtout quand tu as vu que, oh, sacrilège, t'allais peut-être bien devoir mettre un porte-bidon sur ton vélo. Qu'est-ce qui t'a fait le
Ouais.
plus peur, le dénivelé ou le porte-bidon?
Le porte-bidon. Bikilman Portugal, ouais. C'était pas prévu. Alors, c'est pas que c'était pas prévu, c'était que en fait j'étais inscrit pour la Corse l'année dernière à cause du confinement. Et en fait, du format qui avait été proposé en Corse, bah, j'avais dit à Axel Carillon, l'organisateur, que bah, moi ça me plaisait pas parce que en fait tu faisais 300 bornes par jour pendant 3 jours en gros. Moi, c'est pas ça que j'étais, enfin, que je venais chercher. Moi, je venais vraiment chercher, voilà, ces nuits dehors, enchaîner un peu ben, la fatigue, les galères, les éléments aussi extérieurs. Donc voilà, ça avait été Axel m'avait reporté du coup pour le Portugal. Et en fait, ben, je vais pas te mentir, mais déjà le mois avant les 7 majeurs, j'étais fatigué, très fatigué même déjà. Donc je me suis dit les 7 majeurs. Si ça passe, c'est cool, mais ça va être chaud. Et encore la veille des 7 majeurs, j'étais très fatigué. Et en fin de compte, après cette épreuve, ça m'a reboosté. J'ai pris un gain d'énergie. Alors, incompréhensible, c'était, je sais pas d'où ça sort. Parce que quand je te dis que j'étais à plat, voilà, le jour avant les 7 majeurs, j'étais fatigué. Et qu'une semaine après, j'ai les jambes comme pas possible. Je me dis bon pourquoi pas voilà y aller à ce Bikingman Portugal pour finir l'année ben, sur mon premier ultra voilà sur un premier 1000 km mais en fait je te le dis à 3 semaines de l'épreuve j'ai appelé Axel et voilà je lui ai dit Axel est-ce que on peut reporter ou pas il me dit non là si tu viens pas c'est voilà c'est perdu donc j'ai dit d'accord bon ben je viens voilà j'ai pris l'après-midi j'ai pris mes billets d'avion
C'est
et
les
voilà.
affaires, mon fils, c'est les affaires.
Comme ça, et après ça m'embêtait de perdre entre guillemets mon inscription, c'est dommage. Donc ça faisait toujours une expérience. Écoute, ça passait, ça passait, ça passe pas, ben, ça passe pas, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, j'aurais tenté. Mais voilà, tout ça pour dire que il a fallu que j'achète un porte-bidon, quoi.
Ta flamme s'est éteinte. T'es au courant de ça?
Ma flamme derrière.
Ouais.
Non, ça, tu le vois pas, mais ça carbure, ça carbure.
Ouais. Ah oui, j'ai aperçu un petit truc là. Oui. Il y a eu un petit. Ah, ça y est là. Oui, d'accord. Il y a
Ah,
un petit. Il y a un petit. Il y a eu un petit regain d'énergie.
ah,
T'as fait ça en combien de temps le Biking Man?
j'ai fait ça en 54 heures. C'est long, hein? C'est très long. C'est très long. Tu m'as demandé l'état d'esprit dans lequel j'étais arrivé.
Ouais.
Bah, tu me connais, hein? Je suis arrivé pour gagner. Je fais 13e. À refaire, qu'est-ce que j'améliorerais? Rien. Est-ce que j'aurais pris un braquet différent? Non. En fait, j'ai fait tout très très bien pour un premier ultra. J'ai fait tout très 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 bien. Je pouvais pas faire mieux. J'étais dans une très très bonne forme. Voilà. Après, tout simplement, Sur des 300, des 400 km, je pense que je peux vraiment rivaliser, comme j'ai déjà fait sur un Gravelman, comme j'ai fait sur une Race Across France, où il y a un certain niveau quand même, voilà, d'année en année, ça commence à, le niveau commence à grimper. Voilà, sur un 400 bornes, je peux rivaliser avec des vélos classiques. Là, tout simplement, la première journée, alors j'ai reçu beaucoup de messages, un peu de moquerie d'ailleurs. Tout à l'heure, on parlait des messages un peu haineux. Ouais, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup de partir aussi vite si c'est pour se retrouver dixième au bout de 400 bornes. Alors, à ce mec, j'ai reçu qu'un message comme ça. À ce mec-là, j'ai répondu. Je lui ai même fait un vocal sur le vélo pendant l'épreuve en lui expliquant en fait que j'avais pas le choix de partir vite. Alors, je suis pas parti vite. C'est tout simplement que le début de l'épreuve montait beaucoup. Il y avait pas mal de pétards. C'était vallonné. Il y avait beaucoup de vent de face, donc en fixie, plus ça, ben, ça a été très compliqué. Franchement, les 80 premiers bornes, ça a été la guerre. Mais quand je dis la guerre, je me suis dit, mais voilà, je suis sorti, je crois que je suis sorti des 90 bornes. J'ai dit, mais il faut pas que ça continue comme ça, parce que clairement, je vais pas au bout des 1000 bornes, hein, clairement. Donc voilà, ce mec-là, je lui ai expliqué gentiment que voilà, j'étais à mon rythme, que ça grimpait, que si je voulais passer la côte, j'avais pas le choix de mettre du rythme en fait, parce que sinon bah, je descends du vélo et je pousse. Donc voilà, il a compris. Donc bah, déjà, c'est cool de sa part. Mais voilà, non, je suis pas parti vite. Je suis parti à mon rythme. J'ai commencé à prendre mon rythme de croisière au kilomètre 120, où la route était beaucoup plus roulante, un peu vallonnée, mais voilà, rien de fou. Et voilà, tout ça pour dire que j'arrive au CP1 deuxième, avec mon pote Nicolas Julien qui était juste devant moi là, à 5 minutes. Mais voilà, il n'y a pas eu de. Non, j'étais dans mon rythme. Je perds beaucoup de place à partir du CP1 jusqu'au CP2. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que CP1, CP2, il y avait. Alors, déjà, pour revenir, départ CP1, 340 km, 5 700 mètres de dénivelé positif, 13h15. Alors, pour remettre un peu les choses dans le contexte. Tu pars sur un 1000 bornes, ça roule vite, ça roulait très vite. On a pris 350 bornes vent de face toute la journée. Donc, première journée solide, on va dire. CP1, CP2, 388 km avec 3000 mètres de dénivelé. Donc, plutôt roulant. Voilà, plutôt roulant. Et en fait, j'ai perdu énormément de temps ben, voilà, sur cette partie parce que ben, il y avait beaucoup de descentes, beaucoup de parties roulantes. Beaucoup de vent de dos. Donc, ben, malheureusement, voilà, moi,
T'étais un peu court de braquet.
j'étais très court de braquet. Je rappelle que j'avais un 49-19 pour le Portugal. C'est tout. Donc, je suis parti avec ça et j'avais 49-19. Donc, ben, sur le plat, moi, à 35 à l'heure, ben, j'étais routeur. 35 à l'heure, avec un peu de vent de dos en plus, j'étais à 110, 115, 120 tours minute. Donc bah, clairement, quand tu fais un 1000 bornes, bah, tu peux pas rouler à cette allure. Donc je roulais beaucoup à 33, 34, mais jamais plus vite. Donc bah, du temps, bah, tu en perds beaucoup parce que bah, toi, tu roules à 33 alors que voilà, j'aurais eu du gros braquet. Bah, c'est des parties que j'aurais avalées à 40, 42, 43 km heure. Mais quand ça dure 400 bornes, quand c'est 10, 12 heures d'effort, bah, l'écart forcément, il
Ça
se
fait
creuse
grandir,
à
ça fait une
vitesse.
énorme différence.
Ouais, c'est énorme. Alors après, rapidement, ben voilà, je me suis dit que ben, la gagne, ce n'était pas envisageable. Et c'est là que oui, je suis compétiteur, il n'y a aucun problème là-dessus. J'adore me battre avec le devant de la course. Mais c'est là que tu te dis, c'est pas grave. En fait, c'est une course en fait contre soi-même, l'ultra, hein, avant tout, je pense. Et puis en fait, j'ai kiffé comme jamais. C'est une de mes plus belles expériences que j'ai eues. Franchement, j'ai adoré, je me suis régalé, même si j'ai eu voilà, des moments galères, comme bah, la première nuit où tu roules, à 2 h du matin, tu as des jambes de feu, il y a tout qui roule, il y a tout qui va bien, puis en fait, bah, tu as les yeux qui se ferment, quoi. Et puis bah, ça, j'ai jamais eu. Ça, j'ai jamais eu. Et c'est fou parce qu'en fait, bah, ouais, tes yeux se ferment 2 secondes, 3 secondes. Puis en fait, tu t'aperçois que c'est dangereux parce que ben, des fois, en 3 secondes, ouais, tu fais du chemin et puis tu arrives dans un virage où voilà, tu n'es pas forcément attentif. On a eu vachement d'humidité et de brouillard la nuit au Portugal. Donc ça a été compliqué à gérer aussi au niveau des éclairages parce que tu voyais pas grand-chose. Donc ouais, beaucoup, beaucoup de petites choses à gérer. J'ai fait le choix de partir ultra léger. Donc ça, c'était un choix perso. Je voulais me mettre en difficulté. Voilà, si j'avais besoin de dormir, ben, je sais que ça allait être vraiment en mode galère. Je ne savais pas si j'allais dormir ou pas. Voilà, je partais dans l'inconnu. Donc c'était vraiment qui tout double, je ne savais pas. Et puis ben, voilà, hein, première nuit, j'ai dormi. Malheureusement, je n'ai pas eu le choix de m'arrêter parce que ben, clairement, ça commençait à être dangereux. Donc j'ai pris la décision de m'arrêter 2 heures. Sous une petite chapelle en plein vent, il y avait que ça. J'étais dans un petit désert au fin fond du Portugal, je ne sais où, dans le vent. Voilà, donc j'ai déballé la couverture de survie. J'ai fait une grosse erreur que je répète souvent, mais en fait, je me suis emmitouflé dedans. Donc, au bout de 2 heures, ça a condensé et je me suis réveillé trempé. Donc là, tu es content quand à 4 heures du mat, tu te réveilles trempé, tu mets la tête dehors, qui fait 4 degrés et que ça souffle, qu'il y a du brouillard. Hein. Donc voilà, j'ai passé un sale moment. Et il y avait 2-3 maisons un peu plus loin, je me suis arrêté toquer, mais bien sûr, il n'y avait personne, ce n'était pas habité. Et puis en fin de compte, ben, heureusement qu'il n'y a pas d'assistance sur ce genre de course parce que ouais, à ce moment-là, j'ai pensé à bâcher, bien sûr. Hein. Ah, c'était dur. C'est dur.
T'as pensé à bâcher. Ah bah alors celle-là.
Et ouais. Alors après, c'est ce que je raconte souvent, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'assistance, ben en fin de compte, tu fermes ta gueule, tu remontes sur ton vélo et puis puis t'avances. En fait, t'as que ça à faire. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Donc ouais, je suis remonté sur le vélo et là, le truc fou, c'est que c'était un faux plat descendant et en fait, je freinais. Je me forçais à rouler à 20, 25 km/h parce que si je roulais plus vite, je prenais vachement d'air, vachement de vent et puis j'étais gelé en fait. Vu que j'étais tout mouillé, j'avais vraiment froid et j'attendais qu'un truc en fait. J'étais sur le Garmin, je fais tourner la page et en fait, j'attendais voilà, la prochaine bosse. Et j'ai eu de la chance parce que la bosse était 10 bornes après le lieu où je suis remonté sur le vélo et ça montait 9 km. Donc en fait, je savais très bien qu'au pied de cette bosse, ben, c'était parti pour un chrono comme s'il y avait qu'une bosse à monter. Et ouais, c'était quoi, 5h30, 6h du matin. Et ouais, je me revois à 5h30 du matin à bloc dans la bosse. J'ai doublé un concurrent d'ailleurs. Il m'a vaguement dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah, écoute, je me suis arrêté 2 heures, je suis trempé, j'ai froid, là, je me mets rupteur dans la bosse pour me réchauffer. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà.
Après, tu t'es arrêté pour la saison, c'était bien mérité, t'as pris un petit peu de poids et maintenant 2022.
Ouais, 2022. Du coup, avec mon entrée officielle dans le Team Look, Critérium. Donc c'est génial, c'est cool, je suis content de rentrer dans ce team, ça va être vraiment vraiment sympa, l'ambiance est cool, j'ai déjà pu rencontrer certains. Le programme n'est pas fixé encore. Je peux quand même sortir deux trois petites choses, donc dont le périple au mois de mai, voilà, qui va être très sympa. Mais avant ou après, il va y avoir une traversée des Alpes. Donc, traversée des Alpes, Thonon-Mont-les-Bains, Nice. 600 km, je crois, environ 630, 650, je ne sais plus exactement, pour environ, je crois, 12 000 mètres de dénivelé, un truc dans le style. Je ne me suis pas penché sur le parcours encore. C'était quelque chose qui était prévu l'année dernière, mais. Ben, j'ai pas pu tout caler, sachant que j'avais mis l'étape des assassins qui s'est greffée comme ça sur un coup de tête. Donc j'ai pas pu tout faire. Il va y avoir une tentative de record de la traversée de la Corse sur la GT20. Voilà. Traversée de la Corse en fixie. Combien y a de kilomètres? Je crois qu'il y a 600 kilomètres ou 500 et quelques. Non, quasiment 600. Et le dénivelé, je me demande s'il n'y a pas 9 ou 10 000 mètres encore, donc voilà. Ça fait deux traversées. Il va y avoir quelques critériums aussi, bien sûr. J'ai envie d'en faire quelques-uns pour le fun, voilà, sans prétention, parce que c'est pas du tout ma came, c'est hyper technique. Et puis puis c'est un autre effort surtout. Voilà. Peut-être, je dis bien peut-être, un petit gravelman au Pays Roubaix. Mais ça reste à voir si je vais voir les pavés ou pas. Mais le 28 février, il me semble qu'il y a un petit gravelman là-haut. Qu'est-ce que t'en penses? C'était de la partie?
Alors non, 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 c'est beaucoup trop tôt pour moi.
Ouais, c'est tôt. Ouais.
C'est beaucoup trop tôt. J'ai plus du tout envie de me mettre, de me faire chier l'hiver. Donc j'attends patiemment. Mais
Je
oui,
pense
effectivement, les
que...
pavés, ça peut être très drôle. Alors en pignon fixe, ça peut être un joli petit défi pour toi avec les vibrations et les. Ça peut être hyper drôle.
Ouais, alors en fait,
Peut-être pas très longtemps, mais en tout cas, sur les premiers, tu peux rigoler un peu. Peut-être moins sur les derniers.
Alors, demain, le 28 février, je pense qu'on peut se taper une météo bien dégueulasse, qui peut être très sympa aussi.
Ouais.
Et en fait, je voulais aller le faire en prépa, en fait, de Paris-Roubaix. Parce qu'en fait, avec le Team Look Critérium, on fait Paris-Roubaix la veille des pros. Voilà. Donc, ça va être bien sympa aussi.
Bah, ça peut être en tout cas, oui, une bonne préparation. En tout cas, ça peut être un bon repérage que tu saches un petit peu à quoi ça ressemble de rouler sur des pavés.
Voilà, si je dois adapter trois choses qui sont un peu plus confort, voilà, bon, bref. Et
Changer quelques trucs, ouais.
voilà, et du coup, je terminerai au mois d'octobre sur la Tuvolcano en Italie.
Ah.
J'ai envie de. Alors, je pourrais pas rivaliser avec. Voilà, voilà, ben, l'avantage d'avoir fait un biking man, c'est que j'ai pris conscience que. Ben, sur autant de kilomètres et de dénivelé, ben, je perds beaucoup trop de temps, je lâche énormément de force par rapport au mec de devant. Il faut aussi dire que la discipline, elle est en train d'exploser et que, ben, mine de rien, tu vois, au Biking Man, il n'y a jamais eu un niveau aussi relevé et des arrivées quasiment à 10 minutes, tu vois, je crois que sur les 10 premiers, il y a 2 heures d'écart, tu vois, donc ça commence à être sympa. Donc,
Oui, il y a surtout une densité là du coup.
c'est ça, et en fait, j'ai envie d'aller me frotter un peu on va dire, au grappin mondial du bikepacking hein, avec des
Oh,
Sofiane.
il sera à la Tuvolcano le gratin, il n'est pas sur les Biking Man, sans manquer de respect aux premiers qui sont très forts, mais Tuvolcano c'est un autre niveau encore.
Après, ouais, je trouve ça dommage que ce style de, voilà, de personnes ne viennent pas non plus sur ce genre d'épreuve, parce que c'est aussi sympa et tout, mais après, c'est vrai que. Ben, voilà, de ce que j'ai suivi, des courses que j'ai suivies, ben, le niveau un peu mondial, il est sur ces grosses courses, sur les Transpyrénéennes ou sur des conneries comme ça. Donc, la Tuvolcano, là, m'a fait rêver. Voilà, 1200 bornes avec 26 000 ou 25 000 de dénivelé, c'est juste la folie. Donc, voilà, ça va pas être une saison. Alors, je ne vais pas dire aussi folle que 2021, parce que 2021, franchement, ça a quand même été. Ouais, y a eu quand même pas mal de choses de faites. Mais voilà, entre une traversée des Alpes, une traversée de Corse, deux, trois crits par-ci par-là, un petit Paris-Roubaix et une Tuvolcano, ouais, je pense que ça fait quand même une belle saison.
Bah en tout cas, ça fait une grande amplitude et pour ne rien te cacher, bah évidemment, si tu ne l'as pas entendu, je t'invite à le faire, l'épisode avec Sofiane où il explique que lui aussi va davantage étaler et mettre l'accent sur certaines épreuves, soit pour le résultat, soit pour la visibilité.
Bien
Et
sûr.
ce matin, j'ai eu exactement la même conversation avec Ulrich Barthelmès.
Voilà.
Donc on a discuté 1 heure et il m'a étalé exactement la même chose. Et lui, son objectif, c'est la TCR.
Ouais.
Et il a exactement la même répartition.
Bah après, je pense que c'est des mecs qui ont. Alors, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi sur l'ultra distance. Moi, j'ai ce côté de connaître aussi mon corps parfaitement. De connaître aussi un peu voilà ce qu'il faut faire pour arriver à ses objectifs. Mais ouais non c'est des toi j'ai hâte de me confronter un peu à des mecs comme ça et tu vois ça me démangerait presque tu vois de prendre un vélo classique tu vois pour voir vraiment ce que je pourrais faire tu vois alors après j'ai plus envie du tout de rouler toi sur ce style de vélo mais juste voir une fois tu vois parce que Je pense que je roule solide. Je pense que j'ai un niveau de. Ah, comment tu viens de le nommer?
Ulrich.
Ulrich, voilà. Ça roule, hein, voilà. Mais alors après, comme le disait Steven, comme le dit Sofiane, c'est sur le vélo que ça se fait, hein. Le but, c'est d'avancer sans s'arrêter. Faut éviter au maximum de s'arrêter. Et tu vois, c'est des mecs, tu vois, comme Steven, que à chaque fois que je lui envoie un message, je lui dis, putain, mais comment tu fais? Comment tu fais le sommeil? Parce que, ben, tu vois, moi, j'ai fait 1000 bornes. Hein. Mais tu vois, Steven, quand il a fait la Northscape 4000.
Sa dernière étape à 700.
Mais là, on parle de la dernière, au bout de 4 jours. Oh, j'ai
Bah
rien
du coup, au bout de 3400, la dernière, il l'a fait en 700.
dit. Enfin, en fait, les gens qui ont jamais fait peuvent pas comprendre parce que c'est. Voilà, être sur le vélo, dormir sur le vélo, maintenant je sais ce que c'est, quoi. Et non, c'est complètement fou. Et ça, je sais pas si ça se travaille, j'en sais rien. Et voilà, je vais essayer de mettre des choses en place pour retarder. Le problème, c'est que moi, Fixie, je lâche du jus. Je lâche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, c'est le piège aussi.
T'es passé au frein, tu vas peut-être passer à la roue libre.
Alors. Ça tombe bien que t'en parles.
Ah mais je sais, hein, tu sais. Puis à ce rythme-là, tu vas mettre deux portes bidons et puis voilà. Et après, tu vas t'acheter un dérailleur, tu vas mettre des poignées.
Ah, mais parce que bien évidemment, mais c'est sûr que tu vois, au Biking Man, j'aurais eu une roue libre, ben, le résultat, il n'était pas le même. Le résultat, il est que je rentre dans les 5 premiers et sans forcer, tu vois. Mais c'est pas ça le fixie, tu vois. Le fixie, c'est je pédale sans arrêt. Et voilà, ça fait partie du jeu. Donc, bien sûr, j'étais parti pour la gagne au Biking Man, mais voilà, comme je te dis, dans un premier, j'ai vite compris au bout de 10 heures d'effort que dans tous les cas, ça allait être compliqué d'être devant sur toute la longueur. Et au final, après, ben, tu te mets dans ta bulle et puis tu t'écoutes surtout parce que je pense que c'est le plus important en ultra. Si tu t'écoutes pas, ben, tu pars au carton, tu pars au carton. Hein. Je pense qu'en 5-6 heures, tu peux foirer ton ultra. Hein. Donc voilà, non, c'est vraiment une course contre soi-même. Et tu vois, je fais 13e, je fais 13e. Honnêtement, le résultat, je m'en fous. J'avais prévu 50 heures, je mets 54 heures. Non, franchement, je suis hyper content du résultat, hyper content de l'ambiance, des gens rencontrés, de l'état d'esprit des gens surtout, tu vois, sur l'épreuve. Très loin des cyclos, et ces connards de cyclistes. Pardon pour l'expression, mais voilà. Non, tu vois, c'est vraiment. Ah, c'est un autre monde. C'est un autre monde.
Bon, moi, je vais te laisser pour ta minute de solitude, hein. Je pense que tu l'as bien mérité.
ça va, c'est cool, Richard.
Ouais. T'as encore des trucs à dire?
Franchement, j'ai bien parlé.
Ouais.
Je sais pas trop ce que je vais raconter encore. Je crois que je vais raccrocher comme la dernière fois. Hein.
Non, 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 arrête tes conneries. Alors là, c'est interdit. Sinon, bah, sinon rien d'ailleurs. Mais par contre, bon, on en reparlera par message. Je te renverrai un message après ou demain, mais j'ai une suggestion. Mais en tout cas, ouais, je te laisse pour ta minute de solitude. Donc, bah, je te dis à bientôt. Mais à bientôt dans le genre, je m'arrête à Carpentras.
Ben, quand tu veux.
La dernière fois, ça a été un peu précipité. Il faisait super chaud, etc. Et en plus, quand je t'ai appelé, tu étais parti rouler. Donc, mais il y en aura d'autres. Quand tu parles de la montagne de Lure, bah, c'est pratiquement ma deuxième maison.
Ouais, je sais.
Donc, je la connais bien. Et voilà, donc je te dis à très très bientôt, merci encore une fois.
Merci à toi. Et tu noteras que le feu, il est reparti.
Ah non, non, mais j'ai noté à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça va avoir mis la puce à l'oreille, les gens vont regarder que ça en fait, ils vont se dire, putain, Bigot, il a la chaudière allumée, mais laisse tomber.
Ah, purée, là. Bon, ça.
Rien que d'en parler, elle se rallume direct.
Salut.
Ouais, c'est beau, hein, c'est beau. C'est magnifique. Bon, mon petit lapin, je te laisse pour ta minute de solitude.
Merci et à très vite.
Quand tu as terminé, parce que là j'ai changé de système pour toi, uniquement pour toi, avec tes problèmes d'ordinateur, tu laisses ton truc allumé. D'accord? Tu
Combien de temps?
peux te barrer quand tu as fini, mais tu laisses allumé.
Combien
D'accord? Je reviens, je suis pas loin, hein, tu
de
sais.
temps? Ah, c'est
Tu
bon,
fais ce
pas
que tu as à faire et voilà. Moi, je couperai, je m'occupe du reste.
peux me mettre tout nu pour aller au lit.
Hein?
Je peux me mettre tout nu pour aller au lit.
Mais tu fais ce que tu veux, c'est un espace de liberté et j'ai quand même une petite audience féminine et ou même
Jamais.
sait-on jamais. Puis j'ai aussi une forte audience masculine et là-dedans, il y en a très bien que ça peut ravir et bah, je suis très content pour eux si ça les enchante. Donc voilà. Voilà, c'est cadeau. Éclatez-vous. Chimpendel, l'habitalaire, et hop, c'est parti.
Bon, bah voilà, ben merci à toi Richard pour cette petite interview. Merci à vous tous qui suivez Richard Delhomme et ses podcasts. Merci aussi à vous qui me suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram, voilà, me suivre, donc c'est vraiment cool. J'essaie de répondre à tout le monde hein, en général, voilà, même si des fois ça prend un peu de temps. Voilà, bah écoutez, on va essayer de faire une saison 2022 aussi belle que 2021, en espérant qu'on soit pas trop bloqué avec la crise sanitaire, mais bon, on espère, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Voilà, et puis bah écoutez, bornez autant que vous pouvez et profitez bien voilà, de vos vélos, de nos belles routes en France. Et puis voilà, on se dit à bientôt sur une épreuve, à droite, à gauche, en France, à l'étranger. Et voilà, allez, ride safe, à bientôt, ciao, ciao.